8h46, making of et les coulisses de la rédaction de France Inter. Ce matin, être correspondant à l'étranger. Cap donc sur les États-Unis, avec une semaine riche d'actualité aux États-Unis. Deux fusillades, la mort de l'écrivaine et prix Nobel de littérature, Toni Morrison.
Le terrain de baseball, juste derrière le centre commercial où a eu lieu le massacre, s'est transformé en église à ciel ouvert. On a passé une journée incroyable, dit Donald Trump, alors qu'il s'apprête à quitter le centre de secours d'El Paso où il est venu saluer les forces de l'ordre. La nouvelle est confirmée par la famille et l'agent new-yorkais de Toni Morrison. C'est évidemment une très grande figure de la littérature américaine qui disparaît. El Paso, Texas, Grégory Phillips, France Inter. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Laetitia.
C'est vous que l'on entend dans les reportages qu'on a diffusés là en rapide, puisque vous êtes en fait envoyé spécial permanent aux États-Unis pour l'ensemble du groupe Radio France. Dans la vie d'un correspondant, c'est ce qu'on appelle une semaine chargée.
Oui, une semaine chargée. Alors aux États-Unis, l'actualité va très vite. Évidemment, on est très occupé par la Maison Blanche, Donald Trump, etc. Puis parfois, il y a des événements dramatiques comme les deux fusillades que vous évoquez. Donc ça a été une semaine effectivement assez chargée. Puis pour tout vous dire, je terminais mes vacances quand ces fusillades sont intervenues. J'ai raccourci un peu mes vacances pour partir immédiatement à El Paso au Texas. Donc semaine chargée comme d'habitude et vacances un peu raccourcies évidemment.
Grégory Phillips, qui dans ces cas-là décide de vous y envoyer? C'est vous qui décider ou c'est la rédaction?
En fait, samedi soir, quand on voit que c'est une fusillade majeure, parce que malheureusement aux États-Unis c'est quasiment un phénomène quotidien, mais là on sait qu'il va y avoir beaucoup de morts, j'appelle les rédactions à Paris et très vite on se dit qu'il faut aller sur place. Le temps de s'organiser, il n'y a plus de vol direct le samedi soir, donc je pars le dimanche matin et on décide ensemble en fait avec les rédactions et le fait d'y aller s'y impose. Et puis on apprend quelques heures plus tard qu'il y a une autre fusillade dans l'Ohio, également dramatique. Donc il n'y a aucun doute, il faut être présent sur ces événements et on décide d'y aller ensemble.
Et quand on arrive sur place, Grégory Phillips, comment vous trouvez vos interlocuteurs ?
Alors écoutez, je réfléchissais tout à l'heure, ça fait 2 ans que je suis correspondant aux États-Unis, je crois que c'est la 5e ou 6e fusillade de masse que je couvre comme ça, et à chaque fois, c'est évidemment une tragédie totale parce qu'on rencontre des gens qui viennent de perdre des proches, etc. Et d'un autre côté, c'est assez terrible à dire, mais le scénario est un peu toujours le même. C'est-à-dire que vous avez la fusillade, l'arrestation ou la mort du tireur, et puis très vite, des veillées dans la ville. Donc c'est quasiment la première chose qui se passe. Et puis ensuite, on rencontre des gens qui ont assisté à la fusillade. Et les médias américains les présentent comme des héros et parce qu'ils ont pu sauver des gens. Et puis ensuite, il y a le débat sur les armes. Et puis ensuite, il y a la politique qui s'en mêle. Et puis ensuite, il y a la visite de Trump. Et le scénario est toujours un peu le même, malheureusement. Donc, on sait comment couvrir ça. Et moi, quand j'arrive à El Paso, le premier réflexe que j'ai, c'est d'aller sur les lieux du drame, au Walmart, parce que je sais que la population va se réunir là pour une première veille.
Grégory Phillips, vous êtes à l'origine basé à Washington, donc vous sillonnez aussi les États-Unis au gré des reportages. Mais par exemple, à Washington, à la Maison Blanche, là, on est obligé d'avoir des relais, on n'y rentre pas comme ça. D'ailleurs, si on peut y rentrer quand on est correspondant étranger.
Oui, alors on peut y rentrer, on demande en fait une accréditation temporaire ou permanente pour une semaine, pour un mois ou pour une année. Donc on peut aller à la Maison Blanche. Pour tout vous dire, j'y vais de moins en moins souvent. Pourquoi ? Parce que il y a quasiment plus de points presse. Avant, il y avait un point de presse quotidien où les journalistes pouvaient poser des questions au porte-parole de la Maison Blanche, et ces points presse ont quasiment disparu. C'est une volonté de la part de l'administration Trump. Donc l'intérêt pour un correspondant radio comme moi, d'aller à la Maison Blanche est assez limité. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est de suivre le président parfois sur des déplacements. Quand il va faire des meetings en province, par exemple, j'essaie de le suivre. Ou parfois à l'étranger, je l'avais suivi à Singapour pour le sommet avec le Nord-Coréen Kim Jong-un. Donc, la Maison Blanche est évidemment pour nous une source d'information. On essaie d'avoir des contacts avec eux, mais les contacts quotidiens sont de moins en moins fréquents.
Grégory Phillips, vous allez vous rendre à Woodstock, vous allez faire une série de reportages pour commémorer les 50 années de Woodstock. Ça va pas être simple, mais en même temps, vous, vu de chez nous, vous travaillez seul. Comment vous faites ?
Oui, on travaille seul, on n'a pas de technicien. Quand je pars à El Paso ou à Woodstock, c'est seul avec mon Agra, mon magnétophone d'enregistrement, mon téléphone et mon ordinateur. Donc des moyens techniques assez limités, des moyens humains assez limités, surtout si on les compare par exemple à mes confrères américains, ou quand vous débarquez par exemple sur une fusillade ou à Woodstock pour couvrir le 50e anniversaire, vous avez des camions télé et des équipes de CNN, NBC ou ABC absolument gigantesques, et vous êtes petit journaliste français à côté, absolument seul, et il faut essayer de travailler au milieu de ces géants de l'information que sont les médias américains. Mais c'est assez passionnant, assez fascinant, puis le territoire est immense, et c'est vrai que quand on est à Washington, on a la chance, certes, de couvrir Trump, la Maison-Blanche, etc., mais de se balader un peu partout aux États-Unis au gré de l'actualité et d'essayer de rencontrer des Américains du Texas, du Colorado, de Californie, d'un peu partout, et d'essayer de vous faire entendre ces gens-là sur les antennes de France Inter notamment.
Est-ce que vous avez la phobie du fil Twitter de Trump ?
La phobie, je sais pas. En tout cas, je suis un peu accro, comme la plupart des correspondants. Enfin, pour tout vous dire, c'est un enfer, un président qui tweete autant. Pour rentrer un peu dans mon intimité, je me lève vers 6h du matin en général pour commencer ma journée de travail. Et à peine les yeux ouverts, la première chose que je fais, c'est évidemment de regarder mon téléphone portable pour vérifier si le président a tweeté ou pas et de quoi il parle, parce qu'il tweete de manière assez matinale. En juillet, j'étais en vacances pendant 3 semaines, j'ai réussi à me déconnecter des tweets du président, mais depuis que je suis revenu au travail, évidemment, je suis son fil quasiment minute par minute, et de toute façon, j'ai des alertes. Dès qu'il tweete, j'ai une alerte sur mon téléphone, donc je suis au courant.
Merci Grégory Philips, envoyé spécial permanent aux États-Unis pour Radio France.